Bonsoir. De nouveau, il était une fois la politique sur Campus 90.8. Pour la dernière partie, cette fois-ci, donc, avec Francis Filet, toujours, professeur de civilisation américaine à l'Université Stendhal. Alors, ensemble, on a vu jusqu'à présent quelques pistes sur la politique des États-Unis, la politique militaire entreprise par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale contre le communisme, et puis également les intérêts américains au Moyen-Orient, intérêts pétroliers. Et maintenant, on va s'intéresser à la question de Saddam Hussein. Saddam Hussein, décrit souvent comme le vieil ennemi de l'Amérique de Bush, Bush family, c'est-à-dire le premier comme le deuxième. Alors, pour comprendre le conflit, la crise irakienne actuelle, on dit souvent qu'il faut peut-être revenir à la guerre du Golfe pour voir les liens qu'il y a entre, disons, une explication qui dit, selon laquelle si W. Bush fait la guerre aujourd'hui, c'est parce que son père a perdu autrefois les élections contre Clinton, et qu'il faut se racheter d'une certaine façon de ne pas avoir fini le travail en Irak. Alors, Monsieur Filet, nous allons d'abord voir la guerre du Golfe. Quelles sont les origines, quelles sont les conséquences de la guerre du Golfe?
Well, Saddam Hussein, la personnalité de Saddam Hussein, un monstre, n'est pas la cause de la guerre, c'est sûr. Malgré toute la rhétorique qui se voit aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs, le monstre Saddam Hussein était fabriqué par les États-Unis en certain sens. Il était un allié avec les Américains en la lutte contre le communisme. Et il était soutenu par les États-Unis comme Noriega en Panama, qui après la guerre froide a devenu l'ennemi monstre aussi. Now, Saddam Hussein a devenu président d'Irak en 79. Et à ce moment-là, il tout de suite a commencé d'emprisonner et assassiner les chiites dirigeants, les ayatollahs dirigeants les sectes chiites en Irak, et ses autres ennemis, les marxistes. Il était un autoritaire depuis le début de son gouvernement en 79. En 80, la guerre contre l'Iran a éclaté, et les États-Unis n'ont pas arrêté de vendre pour le pétrodollar les armements biologiques, chimiques et les armements de destruction de masse à Saddam Hussein, qui a lutté contre l'Iran. Now, Iran, le problème en question était la frontière entre les deux pays. Mais les États-Unis ont utilisé ce prétexte de provoquer davantage de violence et prolonger cette guerre. Cette guerre a duré plus que 9 ans. Il y a 1 million de personnes tuées en cette guerre Iran-Irak. C'est la plus longue guerre du XXe siècle, Iran-Irak. Et c'est le plus long et meurtrier parce que les États-Unis ont voulu, comme ça. Ils ont voulu, les deux côtés, d'affaiblir l'autre. Alors, ils ont aidé les Iraniens et au même temps, ils ont aidé les Irakiens pour que les deux puissances puissent affaiblir l'une l'autre. Et en conséquence, les positions des États-Unis via Israël et autres intérêts est plus forte. Et c'était les conséquences. Ils ont réussi. Now, après la guerre, en 89, le Koweït était aperçu par Saddam Hussein comme un exploitateur. Le Koweït, le rapport entre Irak et Koweït était mauvais depuis le début. Irak était un état séculaire, tandis que Koweït était plus riche et moins démocratique. Irak a accusé le Koweïti de voler le pétrole en le sud, dans la frontière Koweït-Irak, et a demandé un arrêt, mais le Koweïti ont refusé. Now, les Kuwaitis ont osé de refuser ce petit pays en sud parce qu'ils ont compris qu'ils ont eu l'alliance avec les États-Unis. Le Koweït et les États-Unis étaient alliés contre Saddam Hussein. So, de 89, il y avait une stratégie de provoquer Saddam Hussein. C'est bien documenté par William Bloom dans son livre Killing Hope et autres documents qui expliquent un piège qui était fait pour l'ancien allié Saddam Hussein. Un piège d'entrer dans le Koweït et une fois qu'ils sont entrés en Koweït, les Américains ont venu pour encore réduire la puissance militaire d'Irak. Now, l'idéologie, toute cette rhétorique d'anti-Saddam Hussein a un élément de vérité. Il est un monstre. Mais il était un monstre, en certain sens, toléré et même fabriqué sous mon armée par les Américains. Mais derrière la rhétorique, on demande toujours, après le comédien, politicien parle dans un sens théâtrique. Quels sont les gens, les noms on ne connaît pas, le visage on ne connaît pas, mais qui sont les gens qui planifient tout ça? Qu'est-ce que c'est l'intérêt industriel? Well, il y a une très bonne analyse par un Afro-Américain qui est en prison, qui attend d'être exécuté en Pennsylvanie, Mumia Abu-Jamal. Now, Jamal est un homme qui n'a pas beaucoup de choses à perdre. Il voit le capitalisme d'en bas, n'est-ce pas? Et pour lui, il était un radical en le sens américain, pas gauchiste, idéologue, mais radical, chercheur de vérité. Il cherche l'explication des choses. Alors, il a fait une recherche. Il a dit, on ne peut pas croire que Bush a planifié la politique. Ce n'est pas lui l'architecte. Bush est un comédien, une beau figure qui peut mobiliser les gens, peut-être. Mais derrière Bush, il y a quelqu'un. Intérêt. Qu'est-ce qu'on veut en Irak? Pourquoi ce changement en Irak? Alors, il a formulé cette question de chercher une réponse. Qui sont vraiment les joueurs, les architectes de politique en Irak? Sûrement, ce n'est pas Bush, même pas Cheney. Ils profitent, bien sûr, mais ils ne sont pas les architectes. Alors, Mumia Abu-Jamal a cherché, et le voilà. En lisant un article, il a dit, publié en Londres, septembre 2002, par The Guardian, une revue libérale, pas de gauche du tout, mais là, ils ont fait un petit article qui, pour Abu Jamal, était clé. C'était une réunion, un rapport dans ce journal de Londres, dans une réunion à The Royal Institute of International Affairs. Et tous les dirigeants, les pétroliers, les sociétés pétrolières et les Irakais en exil étaient groupés de discuter en table ronde les futurs d'Irak. Le titre de cette conférence, rapporté par The Guardian, septembre 2002, était « Invading Iraq, Dangers and Opportunities for the Energy Sector ». L'invasion d'Irak, les dangers et les opportunités pour les secteurs d'énergie pétrolière. Et un homme qui a fait une référence de cette conférence a fait un résumé en disant, là j'ai vraiment les questions clés et qui va avoir le pétrole? Who gets the oil? Et le voilà. C'est ça la discussion de ces architectes d'invasion. Quelles sont les opportunités d'envahir? Et un ancien député de The Oil Ministry, Taha Mahmoud Moussa, a parlé de un conflit pendant les décisions d'envahir, que les potentiels des pétroles en Irak étaient sous-estimés. Mais c'est plutôt quelque chose, plutôt que 100-150 milliards de barrels of oil, c'était 300 milliards de barrels. Et ça a représenté une capacité de produire quelque chose comme 8 millions de barrels, je ne sais pas le mot en français, mais
barils
de pétrole par jour, 8 millions par jour pendant les prochaines 10 ans. Now, ça représente un baril d'huile, pétrole et quelque chose, une valeur de 30 dollars. Alors, pour une année, ça représente alors quelque chose, 8 millions par jour, représente 87,6 milliards de dollars. Now, ça représente une tentation irrésistible pour les hommes de commerce de toucher chaque année 87 milliards de dollars. So, maintenant, il faut chercher un prétexte. Un prétexte. Les Américains, les Britanniques veulent avoir accès à cette grande quantité de pétrole de bonne qualité et d'accès facile, exceptionnellement facile. Alors maintenant, cherchez le prétexte. Alors on a trouve un président qui dit, oui, il a essayé de tuer mon papa. Hein? Des choses comme ça pour mobiliser le sentiment. Mais ils sont prêts pour une somme, telle somme d'argent, hein, de profit, ils sont prêts, ils sont capables de faire la guerre 10 fois, parce que l'intérêt est énorme là.
Alors derrière donc George W. Bush, effectivement il y a des hommes. Il y a d'ailleurs un homme dont on entend souvent parler ces derniers jours en France, c'est Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld qui est l'un des premiers à parler de la France comme le pays meneur de l'axe des fouines. Donald Rumsfeld qui était déjà là sous l'administration Reagan. Est-ce que l'administration Bush au fond n'est pas la synthèse de tous les faucons américains, de toute une branche idéologique américaine qui, depuis 20 ans, veut à tout prix, disons, pratiquer une politique de démocratisation forcée au Moyen-Orient.
Oui, oui, c'est sûr. Rumsfeld et autres membres de la Bush, George W. Bush administration sont les anciens combattants contre le communisme. Et en présence dans les pères Bush et même avant, à Reagan, Rumsfeld était présent, un assistant de Nixon avant Reagan. Ils ont une histoire, ils sont les idéologues de droite, les opportunistes, les profiteurs de guerre. C'est sûr, la guerre froide. Mais l'idéologie est comme le vêtement. On change le vêtement, on change l'idéologie. Ces gens sont servantes. Ils ne sont pas les architectes, ils sont les servantes. Ils portent l'idéologie qui convient les industrialistes qui ont un intérêt de profiter par une certaine politique. Cheney, même, il est PDG d'une grande société d'armement, mais il est idéologue aussi en service. Son activité dans le gouvernement de Nixon, Reagan, Bush a ouvert la porte à entrer dans et devenir riche en l'industrie d'armement. Mais ils sont en principe les idéologues qui suivent l'intérêt. C'est les gens qui silencieux, pas visibles, qui calculent leur intérêt. Now, il y a une vérité de temps en temps qui est trop visible, trop transparente, je veux dire, qui dit la vérité, le républicain, l'idéologue républicain. Et c'est un bumper sticker, par exemple, en Californie. Un ami m'a dit qu'il y a un bumper sticker en l'autoroute de Californie, très populaire, qui dit « Kick his ass and get the gas ». Now, ça, c'est trop transparent, c'est gênant pour l'idéologue. Ça a un double sens. Les gens peuvent dire que c'est la vérité. Mais aussi, les questions morales se posent alors. Pourquoi, à quel nombre, quel droit on a de détruire cet pays, tuer Hussein et prendre contrôle de la richesse de cet pays. So, ce qu'on voit en homme politique est intéressant. Je ne suis pas un psychologue. Mais on peut poser la question s'il n'y a pas une hébéphrénie, une dementia précoce là, qu'ils ont la capacité, tant qu'êtres humains comme nous, faits de la même molécule que nous, mais ils ont la capacité de parler de collateral damage, de tuer les enfants. Ils ont une mentalité de tuer en série, de tuer sans remords et de tuer encore et encore et encore et dormir bien. So now, ça, c'est une maladie mentale, une capacité de tuer les innocents et refaire. Or, il y a possibilité de drogue. Il y a pas mal de drogues utilisées par les militaires. Je veux dire les pharmaceutiques, c'est-à-dire la stratégie aujourd'hui militaire et de le combat de nuit, n'est-ce pas? Parce qu'on a un grand avantage de technologie d'entrer en engager la nuit et pas le jour. Ça protège les Américains, les soldats américains. Alors, une nouvelle stratégie de guerre pendant la nuit veut dire que les soldats doivent être réveillés la nuit. Alors, il y a une drogue maintenant introduite aux combattants américains qui empêche de dormir pour 48 heures. Ils sont en énergie, ils sont réveillés. Ils peuvent travailler 48 heures sans se sentir fatigués. Ou la antidépressante. So, il y a une rupture, soit organique, soit psychologique, mais une rupture entre les idées et les conséquences. On ne sent pas les conséquences qu'on fait. Et cette stratégie, c'est presque morbide, qu'il faut tuer les gens, oui les enfants, mais c'est la guerre. Il faut cacher les cadavres, comme ils ont fait par les milliers de cadavres, les enfants, les femmes à Panama City, cacher pour que le public ne voit pas. Alors, les dirigeants, ces soi-disant élites, sont pour une raison ou une autre appauvris. Ils ne sentent pas, ils n'ont pas le sentiment de les gens normaux. Et ils cachent les images, les renseignements pour ne pas influencer les autres Américains qui ont la capacité de sentir. Oui.
Alors, pour finir, parce qu'il nous reste très peu de temps, parce que c'est quand même très pessimiste tout ça, est-ce que, c'est la dernière question, elle est peut-être maladroite, est-ce que finalement la guerre en Irak, en tout cas dans la mentalité américaine, est-ce qu'elle est encore inévitable?
Well, you know, je vois, j'ai reçu les rapports de Cubains, les Cubains sur ce sujet. Les Cubains qui étaient envahis par les Américains plusieurs fois et l'île était contrôlée en la fin du dernier siècle. Et avec le promis de vider les Espagnols et donner liberté aux Cubains. Mais les Américains n'ont jamais quitté Cuba avant 1959. Les Cubains disent qu'il semble que c'est inévitable. Il y a 150 000 soldats en la frontière sud de l'Irak. C'est un grand investissement déjà. Le mouvement anti-guerre est là. Et la seule chose, dit une équipe anti-guerre à Boston, est de réveiller la classe dirigeante, pas en augmentation humaniste, ils s'en foutent, mais en le prix de cette guerre. Cette guerre va vous coûter trop cher, ne le fait pas. Ça, c'est la stratégie de mobilisation. Il y a trop de gens contre la guerre. Le prix est trop haut pour engager. Nous devons trouver un autre moyen d'obtenir cette pétrole, cette vaste somme de pétrole.
C'est sur ces derniers mots donc qu'on va se quitter. Merci Francis Filet de nous avoir un peu plus éclairci l'horizon sur la politique américaine. Il était une fois la politique, c'est fini donc pour ce soir. Vous retrouvez dans un instant Atlantis. La semaine prochaine, c'est l'émission féministe dégenrée. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission d'Il était une fois la politique avec Nicolas qui sera de retour. Voilà, je vous remercie à tous de nous avoir écouté. Merci encore une fois Francis Filet. Vous écoutez Campus 90.8. Merci. Il est 20h30.